Chapitre 4. L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Cours 2. Les transformations de la société française au temps de l'industrialisation. Le Second Empire correspond-il à une période de basculement vers une société industrielle? A. Une population rurale encore majoritaire. 1. Des ruraux au profil très varié. En 1852, sur 35 millions d'habitants, la France compte 27 millions de ruraux, dont 20 millions de cultivateurs. À côté des gros exploitants, la plupart des agriculteurs sont de petits propriétaires et 3 millions de propriétaires agricoles louent leurs bras. Beaucoup de ruraux pratiquent la pluriactivité, alternant activités industrielles et agricoles, selon les saisons et les opportunités, ou se déplaçant temporairement en ville pour travailler. Les maçons de la Creuse, par exemple, qui vont s'employer à Paris ou Lyon. 2. Une lente et inégale modernisation de l'agriculture. La transformation de l'agriculture s'étale sur tout le 19e siècle. Avec la hausse des rendements et des surfaces cultivées, les productions augmentent. La mise en réseau du territoire favorise la spécialisation de certaines régions, viticulture en Languedoc, betterave sucrière en Picardie, tandis que la polyculture décline. La modernisation technique s'amorce, quoique freinée par la fragilité et le coût des machines. 3. Les débuts de l'exode rural. La mobilité entre ville et campagne demeure ainsi importante jusqu'aux années 1860. Progressivement, les installations définitives augmentent, c'est le début de l'exode rural. Il reste cependant encore modéré, la France se caractérise par une urbanisation lente. B. L'industrialisation et ses conséquences. 1. Une production industrielle en hausse. Le textile, la métallurgie et la construction dominent un monde industriel très varié. La production augmente, portée par la mécanisation, l'innovation et la consommation de masse. Elle dépend majoritairement des ateliers et du travail à domicile, mais les usines se développent. En effet, la rationalisation des coûts et l'utilisation croissante de la vapeur favorisent la concentration industrielle. La ville-usine du Creusot passe ainsi de 2000 à 10 000 ouvriers entre 1852 et 1870. Enfin, l'industrie connaît une forte recomposition spatiale. L'activité décroît dans le centre-ouest, Auvergne-Périgord, et s'intensifie en Alsace, en Normandie ou dans le Nord. 2. La diversité du patronat industriel. Les inventeurs, experts techniques, donnent naissance à des secteurs nouveaux comme la mécanique. Artisans et propriétaires de petites unités de production demeurent majoritaires parmi les patrons. Néanmoins, les grands entrepreneurs montent en puissance. S'emparant des nouveaux procédés de production, ils les mettent à profit grâce à leur forte capacité d'investissement. Des régions comme l'Alsace ou le Nord voient naître des dynasties patronales et de très grandes entreprises, notamment dans le textile. Dollfuss Mig et Koechlin à Mulhouse, Mott à Roubaix. Les entrepreneurs forment un milieu influent, qui trouve parfois, avec le paternalisme, un moyen de concilier la préservation de ses intérêts et ses valeurs conservatrices. 3. Les disparités du monde ouvrier. La situation des ouvriers dépend de leur qualification. Les ouvriers très qualifiés, relieurs, typographes, porcelainiers ou souffleurs de verre, savent lire et reçoivent un salaire 3 à 5 fois supérieur à celui des ouvriers du textile et des mineurs, à 80% analphabètes. Les femmes sont 2 à 3 fois moins payées que les hommes et de nombreux enfants travaillent, malgré la loi de 1841, interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans, souvent 12 heures par jour. Tous doivent avoir un livret ouvrier qui permet de surveiller leurs déplacements et leurs emplois. L'écrasante majorité vit dans la misère. C'est la montée des revendications ouvrières. 1. Une organisation croissante des ouvriers. La persistance de petites unités de production fragilise les ouvriers. Premiers touchés en cas de baisse de l'activité, peu nombreux et mal organisés, ils ne peuvent contester collectivement leur sort. Au contraire, le développement de grands pôles industriels facilite leur organisation. Sociétés de secours mutuels, maladie, vieillesse, chômage et coopératives de consommation se développent. Des grèves courtes permettent parfois d'obtenir hausse de salaire et réduction du temps de travail, malgré la répression, car toute coalition est alors interdite. 2. La loi de 1864 et l'émergence d'une parole politique. En 1862, Napoléon III organise le déplacement d'une délégation ouvrière à l'Exposition universelle de Londres. Ses membres y découvrent le syndicalisme anglais et le droit de grève. Ils affirment alors leur volonté d'agir collectivement et d'être représentés. Le 25 mai 1864, la loi Olivier supprime le délit de coalition, dépénalisant la grève sous certaines conditions. En septembre, l'Association internationale des travailleurs voit le jour à Londres, portée par la pensée marxiste. Cela encourage la multiplication des grèves en France, notamment en 1869 et 1870. En choisissant la répression, l'Empire montre qu'il n'est pas parvenu à rallier les ouvriers.